Roger
Hey.
Larivière, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Sam, ça me fait vraiment plaisir.
Donc, Roger, si tu pouvais te présenter en quelques mots tes activités, tu te trouves où, puis qu'est-ce que tu fais?
OK. Alors, Roger Larivière, moi, je suis biologiste de formation et j'habite Rouyn-Noranda et j'ai été professeur de biologie au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis à la retraite depuis presque 10 ans et je suis auteur de plusieurs livres sur les plantes et les champignons. Et je suis maintenant, j'ai maintenant ma propre maison d'édition.
Donc, ton activité se trouve surtout dans l'éducation, puis dans l'écriture de livres. C'est quoi, je sais que tu te concentres sur les plantes et champignons de la forêt boréale. Pourquoi tu as décidé de prendre cette niche-là en particulier?
La raison qui est derrière ça, c'est que j'étais depuis plusieurs années, moi je donne en fait des ateliers sur les plantes et les champignons depuis le début de 1900, en tout cas depuis le début des années 80. Et j'utilisais évidemment des livres de référence qui étaient écrits par des gens du Sud et qui étaient donc des gens qui étaient beaucoup plus liés à la forêt laurentienne. Et très souvent, on ne retrouvait pas les plantes et les champignons qu'on retrouve en forêt boréale, ou à tout le moins, on en retrouvait une partie. Et je dois dire que je vivais beaucoup de frustration quand je donnais mes enseignements, puis aussi quand je faisais acheter des livres de référence aux gens à qui je donnais les formations. Fait que quand on se disait, on fait acheter quelque chose, puis on paye pour à peu près 50% du contenu utile, ben là, voilà. Et en 2004, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de pied là-derrière. Je donnais une formation, un groupe de personnes âgées ici à l'Université du Québec, qui s'appelle le Réseau Libre Savoir, et on m'a dit, écoute, Roger, il n'y a personne d'autre que toi qui peut écrire quelque chose sur les plantes de la forêt boréale. Et voilà, j'ai eu le coup de pied, j'ai eu le coup de foudre. Et je me suis dit, voilà, je me lance et ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait.
Tu as décrit deux types de forêts, la forêt laurentienne et la forêt boréale. C'est quoi la différence entre les deux? Puis c'est quoi qui caractérise la forêt boréale, surtout sur le point des comestibles?
Je vais parler de la forêt laurentienne. La forêt laurentienne, d'abord, est caractérisée par la présence d'une espèce, peut-être même deux, d'espèces arborescentes, les arbres. Et on parle de l'érable, le fameux érable à sucre, qui est souvent associé au bouleau jaune. Et donc, on parle d'une forêt feuillue très majoritairement. Et on va donc retrouver là des plantes qu'on ne retrouve pas en forêt boréale. En forêt boréale, on a plus de conifères et quelques espèces de feuillus qui sont typiques, comme le bouleau à papier, comme le peuplier faux-trembe et le cortège des conifères, les épinettes, sapins, pins gris. Et qu'est-ce qu'on retrouve associé à cet environnement-là? C'est une famille que les gens connaissent assez bien. C'est la famille des Ericacées. Donc, c'est les bleuets, en gros, qui caractérisent ce milieu-là. Mais il y en a plusieurs autres, des plantes qui sont. Parce que quand on parle d'Ericacées, on parle évidemment d'arbustes.
Puis on a souvent l'impression que la forêt boréale, c'est un milieu hostile, puis
Oui.
pas très nourricier sur le point des PFNL. Est-ce que c'est vrai?
C'est tout à fait faux. D'ailleurs, quand on regarde tout ce qui peut se faire au nord du lac Saint-Jean, tout ce qui est en train de se faire, même sur la côte nord, puis quand on pense aussi, aux habitants traditionnels de cette zone-là de végétation, et là, je pense aux Autochtones. Qui se sont nourris pendant des siècles à partir de certaines plantes. C'est tout à fait le contraire. On a donc un environnement qui est très riche en comestibles.
Puis, dans tes livres, je vois qu'il y a des livres sur l'éducation aux jeunes, sur
Oui.
comment introduire les jeunes à la nature. Si tu peux un peu nous parler de ce penchant-là de ton activité d'écriture.
Écoute, ça me vient, des ateliers que je donne depuis plusieurs années. Et j'apprécie tellement de voir des parents, des grands-parents qui viennent à ces ateliers-là avec leurs enfants ou petits-enfants. Et je me suis rendu compte à ces moments-là, c'était une richesse pour moi. Pour deux raisons. D'abord, ces jeunes-là, ils posent des questions, c'est incroyable. Deuxièmement, quand on est sur le terrain, ils trouvent des choses que le commun des mortels ne voit pas habituellement. Ils ont une acuité visuelle incroyable. Alors là, je me suis dit, pourquoi pas ces jeunes-là? Puis, je te dirais aussi que quand j'étais jeune moi-même, donc, au primaire, j'étais dans les clubs 4H. Je ne sais pas si tu connais les clubs 4H au Québec. Ça n'existe plus, en tout cas avec la même force que ça existait dans les années 50, 60. On avait des rassemblements incroyables, très animés, et on avait tellement de plaisir à se rencontrer. Puis, évidemment, les activités qu'on faisait lors de nos rencontres, surtout estivales, ça tournait évidemment autour des plantes, de la végétation. Et c'est là, je pense, que j'ai appris à reconnaître la végétation de mon environnement, de mon village. Mais je dois dire aussi que j'étais énormément stimulé par mon milieu familial.
Puis, c'est quoi le lien entre, tu sais, toi, tu as été prof de biologie
Oui.
et tu t'intéresses aux comestibles sauvages, là, au PFNL. Est-ce que tu vois un lien entre éducation et nourriture? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire apprendre l'écologie et la biologie?
Moi, je pense que c'est indispensable. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître ces dernières années un certain nombre de personnes qui ont développé une expertise assez incroyable, que ce soit sur les plantes ou les champignons, et qui ont évidemment orienté leurs activités sur l'éducation. Parce que si on ne montre pas de façon, parce qu'il faut montrer ça de façon passionnée à part ça. Et je pense que les gens qui le font, je pense à Violon et Champignons, évidemment, dans les Laurentides, des gens qui montrent leur savoir et qui vont au-delà de ce qu'ils savent et qui passent un temps fou après les formations, à recevoir les questions, à répondre et de le faire avec tellement de plaisir parce que moi, je dois dire que même dans ma carrière d'enseignant, j'étais celui qui apprenait le plus. Et je pense qu'on ne peut pas être passionné dans la vie si on n'apprend pas toute la vie.
Puis toi qui es dans le milieu depuis belle lurette,
Oui.
comment tu perçois la perception justement au Québec relié au PFNL puis aux comestibles sauvages? Comment ça a évolué depuis que tu as commencé à donner des formations là-dessus?
Moi, je te dirais que ça a augmenté de façon exponentielle parce que moi, je pense que plus on sera de gens comme moi, des gens intéressés et avec une certaine liberté aussi, parce qu'on a du temps en masse, là, et ce qu'on aime, c'est partager. Je pense ça s'en va vers un point où on va être capable de répondre aux besoins de formation et il y en a de plus en plus. Moi, je le vois là, au Parc des Gobelins ou au réseau Libre Savoir, des groupes dans ma région. Puis même, je vais dans les écoles primaires maintenant avec une espèce de chapeau qui s'appelle technosciences. Écoute, ces jeunes-là, là, ils apprennent de leurs parents, ils sont très heureux me communiquer ce qu'ils savent. Ils sont contents de me dire qu'ils ont goûté à telle plante et ils voudraient en faire plus. Alors, moi, je pense qu'on est là aujourd'hui, les formateurs, et on est plusieurs. J'espère qu'on va être capable de répondre aux besoins parce que ce retour à la nature, on ne peut pas revenir en arrière.
Puis est-ce que tu crains que cet engouement puisse menacer la pérennité de la ressource?
Écoute, on est là, on est là justement pour montrer, expliquer ce qu'il faut faire quand on veut cueillir et conserver justement cette ressource-là. Les formateurs sont là pour ça. Et on n'est pas là pour dire, par exemple, avec le thé du Labrador, il y a un an et demi, deux ans, là, où on avait une crainte qu'il arrive une faucheuse dans les tourbières, puis on coupe tout le thé du Labrador. Heureusement qu'il y a eu des gens qui sont levés, puis qui ont dit on peut pas faire ça n'importe comment. Puis il y a des moments de l'année, puis il y a des façons de faire. Alors, je pense que nous, les formateurs, on a quand même une très grande responsabilité sociale par rapport à la façon qu'on exploite cette nature-là.
Ouais, là-dessus, il y a une ressource qui a été extrêmement populaire dans les dernières années, puis c'est le chaga. Puis je sais que tu as travaillé là-dessus en écrivant un livre « Chaga en vrai ».
Oui.
Essayait justement de briser les mythes et de créer une culture de connaissance et de respect de la ressource. Si tu veux un peu nous parler de ta démarche dans ce livre-là, puis ce que tu essayais d'accomplir.
Ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, puis que j'ai écrit d'ailleurs avec une biochimiste de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Isabelle Desgagnés-Pénix, qui est toujours très honnête. Quand on fait nos présentations, d'ailleurs, tu étais présent à un moment donné à Trois-Rivières, quand on parle du chaga, on parle toujours d'un aliment et cet aliment-là, quand il nous rentre dans le corps, c'est un peu comme n'importe quel aliment. C'est toujours assez difficile de savoir qu'est-ce qui va arriver. Puis, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que c'est un champignon. Alors, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne consomment pas, qui ne peuvent pas consommer de champignons parce qu'ils sont soit allergiques ou ils ont des comportements de leur corps qui leur dit « Écoute, c'est pas fait pour toi. » Alors, je voulais, dans ce livre-là, en arriver à donner un peu plus l'heure juste sur ce qu'on connaît du champignon, le chaga, comment il avait déjà été utilisé et on sait qu'il est là, utilisé depuis des milliers d'années là, mais chez nous ça fait pas plus qu'une vingtaine d'années. Il y a eu un engouement pour le chaga, mais il faut évidemment faire attention. D'ailleurs, je me suis déjà fait accuser par un cueilleur commercial de champignons en région à l'effet que les ateliers que je donnais, c'était très mauvais pour lui parce qu'il y avait beaucoup de monde qui se rendait dans le bois, cueillait du chaga n'importe comment et ça dilapidait la ressource. Alors, tu as tout à fait raison qu'il faut être très conscient de ça. Et maintenant, je sais un peu plus quoi dire et quoi répondre à ces gens-là.
Donc, le chaga, est-ce que c'est un allié ou ça tue l'arbre?
Le chaga, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un champignon qui est parasite. Il entre dans le bouleau, soit blanc ou jaune. Il y a quelques autres espèces au Québec qui sont capables de recevoir les spores et de faire développer le chaga, mais on va parler donc des bouleaux. Il rentre par une blessure de l'arbre et l'arbre, évidemment, est prêt parce qu'il a une blessure qui est humide. Les spores arrivent sur cette blessure humide-là, germent et voilà, le mal se fait pour l'arbre, mais le chaga se développe Et en 30-40 ans, il va finir par mettre à mort le boulot. Donc, moi, ce que je dis aux gens par rapport à ça, écoutez, on ne peut pas cultiver le chagas sur les boulots, parce que les boulots qui sont malades, entre guillemets, ben, finissent par mourir. Quand on le cueille, on fait juste prendre la bosse à l'extérieur qu'on appelle un chancre, la bosse noire, mais à l'intérieur de l'arbre, il y a cette pourriture-là qui est en train de ronger le bouleau. Et il va mourir.
On ne pourrait pas penser qu'il y a une certaine échange, dans le sens que le parasitisme, c'est une relation unilatérale. Hein? C'est un organisme qui vient sur un autre et qui lui retire ses ressources sans rien lui donner, négativement. Mais on pourrait pas penser qu'il y a une certaine symbiose, c'est-à-dire que les deux s'échangent des ressources, dans le sens où, du moment où il y a une blessure, le chaga vient cicatriser et c'est un moindre mal parce que d'autres champignons qui créeraient des caries beaucoup plus rapides pourraient s'infiltrer à l'intérieur de l'arbre. On pourrait donc penser que le chaga, oui, enlève l'énergie à l'arbre, mais lui laisse au final 30 à 40 ans de plus de longévité.
Écoute, j'ai lu tellement souvent là-dessus et ta remarque, je l'ai reçue aussi tellement souvent. Je te dirais que ça persiste dans la croyance populaire. Il y a tellement de monde qui croit que c'est une symbiose. Que c'est une symbiose. Que le bouleau qui, généreusement, quelque sorte, je dis bien généreusement, ouvre son écorce, une branche, une plaie pour se faire parasiter, ben, il finit par se protéger des autres champignons. Moi, je vois pas ça de cette façon-là. Je te dirais que le chaga, c'est un champignon qui est un parasite. J'en démords pas. Et quand il entre à l'intérieur du bouleau, il est tellement puissant qu'il prend toute la machinerie à l'intérieur du bouleau pour lui-même. Il va même récupérer les molécules bétuline, acide bétulinique qu'on retrouve également dans l'écorce. Pour lui-même et il les concentre par son mycélium jusque dans le chancre dont on vient de parler il y a quelques minutes. Alors, c'est vraiment, vraiment pas une relation symbiotique parce que si c'était une symbiose, il y aurait des échanges réciproques et bénéfiques pour l'un et l'autre. Et le bouleau, il mourrait pas à la fin. Mais le bouleau, il doit passer par cette étape-là. Donc, il meurt, il tombe. Et ça prend de 3 à 5 ans qu'on dit pour produire des spores. Alors, le bouleau, après sa mort, il y a encore quelque chose à faire. C'est la reproduction du chaga. Alors, moi, je trouve que c'est tellement intéressant, cette relation-là. Mais c'est vraiment une relation de parasite. Je n'en démords pas.
Puis, comment on le cueille, le chaga? Est-ce qu'il faut attendre une certaine taille? Est-ce qu'il ne faut pas creuser à l'intérieur de l'arbre? C'est quoi l'équipement du cueilleur de chaga? Si tu peux nous éclairer là-dessus.
Bon, écoute, moi, ça fait plusieurs années que je cueille du chaga. J'ai utilisé différents moyens. La hachette, j'ai utilisé la petite scie. J'ai utilisé, la scie télescopique pour aller chercher des chagas tellement haut pour être sûr de rien perdre. Ce que j'utilise actuellement, c'est le ciseau à bois large, à peu près un pouce de largeur de lame avec un marteau, parce que je trouve que ça se traîne vraiment bien dans un sac à dos. On est capable de récolter ce qu'on a de besoin. Là, il y a des gens, il y a comme deux écoles de pensée aussi, puis j'anticipe ta question quasiment. Est-ce qu'on ne doit pas en laisser un centimètre d'épais, en laisser la moitié sur le terrain, en tout cas sur l'arbre? Moi, je te dirais que ma position par rapport à ça, et j'en avais parlé avec ma collaboratrice de livre, quand on cueille un chancre de chaga, moi, ce que je fais, je prends la partie qui est à l'extérieur de l'arbre, donc qui est comme flush en bon québécois à l'écorce. Et je cueille cette partie-là parce que c'est le surplus. Il y en a qui vont laisser la moitié puis qui me jurent dur comme fer que ça va se développer encore plus vite. Moi, je n'ai jamais vu et jamais lu d'études scientifiques sur le sujet.
Puis, une fois qu'on a cueilli son chaga, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il faut le réduire en poudre, en petits morceaux, la décoction, l'infusion? Encore une fois, là, éclaire-nous là-dessus. On est confus.
Vous êtes confus. Alors, le chaga va vous redonner une liberté à l'esprit parce que c'est très bon pour la santé. Et j'en prends depuis plusieurs années, donc je peux parler en connaissance de cause. Moi, le chaga, quand je l'ai cueilli, et je dois dire que je le cueille surtout en hiver, et je respecte la physiologie de l'arbre en quelque sorte. J'attends quelques gelées à l'automne. Donc, les feuilles du bouleau sont tombées. On a des périodes de gel et je commence à cueillir mon chaga et j'arrête de cueillir au printemps avant que les bourgeons du bouleau, les bourgeons à feuilles débourrent. Donc, il y a un moment précis. Puis pendant cette période-là, bien évidemment, le bouleau est en dormance. Ça, on sait très bien. Puis l'autre raison qui est derrière ça, c'est que durant l'hiver, à partir de l'automne, avec le gel, le bouleau, le chaga concentre davantage ses molécules de lipides. C'est un peu comme un ours qui va rentrer en hibernation. Alors, les molécules de lipides, ce sont les fameuses molécules qu'on dit anti-cancer. J'ai nommé ces molécules-là tantôt. C'est la bétuline et l'acide bétulinique, donc du gras. Donc, à ce moment-là, après je l'ai cueilli, ben, je la porte à la maison et je le garde. Je le garde dans ma remise durant l'hiver tant que je n'ai j'ai pas le temps de le défaire. Parce qu'on ne peut pas le laisser sécher comme ça en gros morceaux parce qu'après ça, c'est fini. Quand je le défais en morceaux, on appelle ça c'est des petits cubes. On appelle ça, nous, des copeaux. Puis on fait ça encore avec le marteau et le ciseau à bois. Le même marteau ciseau à bois que j'utilise. Et d'ailleurs, quand je fais mes présentations, je dis tout le temps aux gens, bien, écoutez, toutes les femmes devraient se promener avec dans leur sac à main un marteau et un ciseau à bois, n'est-ce pas? Parce qu'au cas où, tu rencontres un chaga, parce qu'il y en a des fois un peu partout, descends de l'auto, puis du chaga, pas tellement loin, dans un endroit qui est propre. Alors, je réduis en copeaux et je mets à sécher. Il y a des gens qui vont prendre ces copeaux-là et les passer tout de suite au mélangeur, mais c'est un mélangeur qui est très dispendieux, genre Vitamix, je crois, avec des lames puissantes, parce que si on utilise un autre mélangeur, il y a des risques qu'on brise le moteur ou en tout cas, c'est pas efficace. Il faut faire très attention aussi parce que il faut pas faire de la poudre avec des copeaux séchés pendant très longtemps parce que la chaleur détruit certaines molécules thérapeutiques. Fait qu'on, donc, on a soit des copeaux, soit de la poudre qui est bien faite. Puis les copeaux, on les met à sécher à l'air libre. Moi, j'utilise des moustiquaires. Ça va très bien. Puis il y en a qui vont mettre ça sur des tôles à côté de leur poêle à combustion lente. L'important, c'est qu'il y ait pour le séchage une source de chaleur continue. Il faut éviter qu'il y ait des moisissures qui se développent sur les copeaux de chaga.
Une fois que j'ai mes cubes, comment je le consomme?
Avec les cubes, là, tu parlais de décoction tantôt. On peut faire ça avec la poudre aussi, là. Ça va s'appeler une tisane, mais ça s'appelle une décoction. Alors, avec les copeaux, ben, on met ça dans un chaudron. On recommande à peu près une demi-tasse de copeaux par 2 litres d'eau. Mais moi, je te dirais que ça dépend de chacun. Moi, j'aime avoir un goût prononcé, une couleur très brune, presque noire. Et je cueille mes copeaux moi-même. Je cueille mon chagrin moi-même. J'en mets en masse. Mais c'est à peu près une demi-tasse pour 2 litres d'eau. Et on met ça dans un chaudron sur le rond-poêle. Et on démarre le feu et aussitôt qu'on voit les petits bouillons qui commencent à monter, on arrête et on laisse ça au moins 2 heures pour que la chaleur, l'eau chaude, pénètre à l'intérieur des copeaux, aille solubiliser les molécules et les ressort dans le liquide qui va devenir brun, de plus en plus foncé.
Fait qu'on arrête le feu, là, puis on le laisse aller à
Non.
température pièce.
Non, moi je laisse toujours ça. C'est vrai que
Au
j'ai peut-être
minimum.
pas été assez précis. Je pars donc mon feu à maximum, mais quand je vois apparaître les petits bouillons, donc la chaleur du liquide est apparente. Là, je baisse ça au minimum et je laisse ça 2 heures à peu près. À peu près pour que le travail de solubilisation des molécules, se fasse.
Puis la solubilisation des molécules, est-ce que ça se fait seulement dans l'eau? On entend souvent que pour le chaga, comme pour d'autres champignons médicinaux, il faut faire double extraction. C'est quoi ça?
Moi, je fais pas de double extraction. Ce que je fais, c'est, et là, je pense que tu voulais m'aligner sur des molécules hydrosolubles et les molécules liposolubles. Je ne sais pas si c'était de ça dont tu voulais qu'on parle. Parce que le chaga, en passant les copeaux, on peut les réutiliser 3, 4, 5 fois jusqu'au moment où on voit apparaître un liquide qui est de plus en plus clair. Alors, c'est très avantageux, alors que la poudre de chaga est à usage unique. Ce que je dois dire par rapport à ça, c'est que quand on va chercher les molécules, quand on va chercher les molécules avec de l'eau, évidemment, on va chercher les molécules hydrosolubles. Et il y en a un paquet. Il y a des glucides, il y a des vitamines, il y a les 85% des antioxydants se retrouvent dans la décoction, ce qu'on appelle communément le café de chaga. Par contre, quand on veut avoir les autres molécules et les molécules dont j'ai parlé il y a à peu près 5 minutes, les molécules anti-cancer, les vitamines, les vitamines liposolubles et 15% des antioxydants, ben là, il faut que j'utilise un autre moyen qui est aussi très efficace. Et on utilise généralement de l'alcool acheté à la Société des alcools, donc qui va être entre 40 et 80%.
C'est quoi les bienfaits du chaga? Pourquoi d'après toi, c'est aussi populaire?
Écoute, il y a tellement de monde qui en prennent. Moi, ce que j'aime aussi quand je donne des ateliers, c'est que j'ai des témoignages. Donc, évidemment, c'est pas des études scientifiques parce que si on revient au ce qu'on disait à un moment donné dans cette entrevue, ben, on parle soit de plantes, des bleuets, des framboises. On parle du chaga, mais on parle d'un aliment. Et dans un aliment, il y a des glucides, des lipides, des protéines, il y a des antioxydants et des vitamines. Ben, le chaga, c'est à peu près, c'est la même chose. Donc, on ne fait pas d'études scientifiques. Moi, j'en prends personnellement et je te dirais que la plupart des témoignages que je reçois, ce sont des témoignages qui touchent le rôle très important anti-inflammatoire du chaga. Et c'est pour ça que ça s'adresse surtout à des personnes d'un certain âge, parce que quand on vieillit, évidemment, les articulations commencent à graisser, commencent à être douloureuses. Puis il y en a qui sont déjà allés vers des médicaments dans lesquels il y avait de la cortisone avec les effets très indésirables, des effets secondaires. Quand ils tombent avec le chaga, il n'y a pas ces effets-là et il y a les effets bénéfiques. Donc, les douleurs disparaissent progressivement et c'est pour ça que c'est très intéressant. Autre témoignage que je recevais dernièrement, c'est quelqu'un qui avait un problème avec ses globules blancs. Il manquait de globules blancs, donc système immunitaire défaillant. Une autre raison de la prise du chaga, c'est que c'est un modulateur du système immunitaire. Et c'est pour ça que c'est très bon pour ceux qui vont faire du diabète de type 2, parce que ça capture en quelque sorte, ça l'emprisonne le glucose qu'on peut avoir dans notre alimentation et ça le fait passer directement dans le tube digestif, sans qu'il passe dans notre sang. C'est vraiment une action qui est comme mécanique en quelque sorte. Donc, tu vois là, anti-inflammatoire, modulateur du système immunitaire. Au niveau des molécules anti-cancer, ben ça a été prouvé sur des cellules, sur des rats, des souris. Sur des humains, écoute, on est encore en situation de recherche, mais le principal problème qu'on a, eh bien, on n'est pas capable de produire ces molécules-là. Avec l'aide des biotechnologies. Et puis c'est d'ailleurs l'essence de la recherche d'Isabelle Desgagné-Pénix il y a quelques années lors d'un projet doctoral, parce qu'elle voulait comprendre comment ça se faisait pour un moment donné en arriver à produire ça d'une autre façon, sans couper les arbres, sans arracher le chaga sur les arbres. Aujourd'hui, on n'a pas de moyens, là. Les Chinois ont essayé de produire du chaga. En laboratoire, ça marche pas. Aujourd'hui, la solution de la biochimie, justement, Isabelle Desgagné-Pénix, ce serait de récolter les écorces parce qu'il y en a un tout petit peu dans les écorces. Alors, on pourrait réutiliser les écorces de bouleau, là où on coupe du bouleau pour en faire du déroulage, entre autres. Si on gardait les écorces, ben, on pourrait récupérer, mais c'est tellement pas rentable. Alors là aussi, on pourrait avoir une rentabilité des arbres encore plus grande.
Encore sur le chaga, j'ai d'autres mythes que j'aimerais
Oui.
analyser avec toi. Est-ce qu'il y a une différence entre les chagas de bouleau jaune et de bouleau blanc, et même des fois sur d'autres arbres comme le strié?
Oui, écoute, la littérature scientifique. Sur le sujet a été, ben, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais on a toujours parlé du fameux chaga sibérien et on dit tout le temps, et ça je l'ai lu à plusieurs reprises pendant que j'étais en phase de rédaction de mon livre, plus un arbre est soumis à des conditions adverses hostiles, plus la concentration des molécules thérapeutiques est grande. Donc, c'est plus concentré, donc c'est plus rentable. Et quand on fait des analyses chimiques, évidemment, de ces chagas-là, de ces chancres-là, ben, on a des contenus plus élevés. Maintenant, pour répondre à ta question sur le bouleau jaune, bouleau blanc, étant donné que le bouleau jaune pousse plus dans les latitudes, en tout cas, sud, avec l'érable à sucre et le bouleau blanc est plus du nord, ben on aurait, en tout cas, j'aurais tendance à croire que oui, c'est plus rentable de cueillir le chaga sur le bouleau blanc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que deux bouleaux blancs ou deux bouleaux jaunes qui sont parasités, je reviens sur le parasite et non pas la relation symbiotique, qui sont parasités par du chaga. Ben écoute, ces deux bouleaux-là peuvent avoir ces deux chagas-là peuvent avoir on fait des tests et peuvent avoir le contenu en molécules thérapeutiques complètement différent parce que c'est le bouleau qui alimente en quelque sorte par ses racines, donc par les minéraux qu'il récupère, l'eau qu'il récupère, par son exposition au soleil, est-ce qu'il est caché plus ou moins? Ben, le chaga, il concentre plus ou moins. Et ça, écoute, ça m'a été confirmé par Isabelle à un moment donné. C'est pour ça que c'est vraiment pas facile de dire, ben, de répondre à ce genre de questions-là. Est-ce que le boulot jaune est plus rentable? Moi, je préfère le boulot blanc parce que je suis vendu à la forêt boréale. Donc, c'est pour des raisons très nationalistes. Et j'ai pas idée. Je te dirais probablement que certains boulots jaunes ont plus de molécules thérapeutiques que certains boulots blancs. Mm-hmm. Ouais, ça n'a pas d'importance. Hein? Moi, je trouve que cette question-là, puis là, elle m'a été posée aussi dernièrement. Écoute, le chaga, c'est comme prendre des plantes médicinales. On en prend, parce que la quantité de molécules thérapeutiques dans les plantes ou dans les champignons, c'est tellement variable d'un champignon ou d'une plante à l'autre que c'est notre corps qui nous dit est-ce que c'est correct, est-ce qu'on a la bonne dose, et on ajuste la dose en fonction de nos besoins corporels. C'est pour ça que moi, ce que j'aime de la médecine dite naturelle, c'est qu'il faut être à l'écoute de notre corps. Et on n'est pas limité à un comprimé par jour ou 3 ou 12 en fonction de notre âge, de notre sexe, etc. On est à l'écoute de notre corps.
Mm-hmm. Ben, tu sais, le chaga, ça rentre dans ce qu'on pourrait appeler les aliments nutraceutiques, dans le sens où c'est nourrissant extrêmement. Tu sais, le spectre de nutriments, de micronutriments est immense. Puis, pas besoin de rentrer tant dans le côté médicinal parce que dans tous les cas de figure, c'est bon pour toi. Puis pour le médicinal, souvent, puis même en santé naturelle, il y a cette vieille phrase que les médecins connaissent bien, c'est que la dose est le poison. T'sais? Puis quand on rentre à quelque chose d'extrêmement médicinal, ben c'est des doses qu'il faut être, puis dans le monde des plantes aussi, c'est des doses dans lesquelles il faut être très parcimonieux. Et là, les dosages sont importants. Mais dans le cas des aliments nutraceutiques, du chaga, tu peux en boire tout le temps, puis ça ne sera que bon pour toi, peu importe ta situation.
Par contre, je te dirais qu'un de mes amis m'avait dit il y a quelques années, parce qu'il essayait, lui, puis écoute, c'est un cueilleur professionnel, là, ici en région, et il a essayé de prendre 6 tasses de chaga dans une journée, et il s'est ramassé avec un méchant mal de ventre. Donc, je pense qu'il y a quand même des limites. Moi, personnellement, je ne peux pas prendre de chaga le soir avant d'aller au lit parce que ça a le même effet que le café. Bon, alors, c'est pour dire que pour certaines personnes, c'est un stimulant. Mais il y en a que ça change absolument rien, mais ces gens-là boivent probablement du café avant d'aller au lit. C'est selon. C'est pour ça, encore une fois, je reviens, que quand on est connecté à la nature, ben on est connecté sur notre corps aussi.
Dernier mythe, y a-t-il une différence dans la composition de la partie extérieure du chancre qui est oxydée, la partie un peu charbonneuse, et la partie interne?
C'est sûr, parce que la partie noire contient évidemment la mélanine, qui est une molécule extrêmement importante, et contient aussi d'autres molécules. Et c'est pour ça que quand on parle du chaga, moi, quand je fais des présentations sur le chaga, je leur dis tout le temps, n'enlevez pas cette couche noire-là, parce que c'est une des parties les plus importantes. Quand on commercialise le chaga, parce qu'il y en a qui cueillent pour vendre, ben il faut mélanger la partie noire avec la partie à l'intérieur. Et la partie qui est un peu cuivrée, marbrée à l'intérieur, c'est du mycélium. D'ailleurs, c'est du mycélium, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est le surplus de mycélium qui est de la même couleur, qui sort à l'extérieur, puis qui, à cause de l'exposition au rayon ultraviolet, va noircir. Parce que quand on coupe du chaga sur un arbre, puis qu'on y retourne l'année d'après, on voit déjà que la partie qu'on a laissée, qui était jaune cuivré, ben elle commence à noircir, puis elle va noircir de plus en plus. C'est tellement intéressant, chaga, puis moi, je trouve que, et ça prouve une chose, hein, c'est que les champignons sont apparus à la surface de la planète il y a 750 millions d'années, bien avant les plantes, sont à l'origine des animaux. Et s'il n'y avait pas eu de champignons, quand les plantes sont sorties de l'eau, ben, les plantes vivraient pas de la même façon, donc on ne parlerait pas de ce qu'on parlait tantôt, de la fameuse mycorhisation. Et les champignons, et ils ont une molécule qui est la même que nous avons dans la peau. Si on est coloré, quand on devient plus coloré, c'est pour se protéger des rayons ultraviolets du soleil. La mélanine, elle était là dans les champignons, elle est là, elle a été produite. Moi, je trouve que sur le plan évolutif, le chaga est assez extraordinaire, en tout cas quand on parle d'évolution.
Ouais, sur le plan évolutif, le règne des fungi, dont les champignons font partie, sont à la base des animaux et des plantes. Et les systèmes vasculaires qu'on retrouve dans ces deux règnes-là, animaux et plantes, seraient en fait une symbiogénèse là, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils se seraient connectés avec ces êtres-là de manière évolutive à ne former qu'un seul être. Donc, c'est notre sang. Et le système vasculaire des plantes est basé sur les champignons. C'est absolument fascinant.
Mais donc, là, toi et moi, on ne se parlerait pas si on n'avait pas, un peu de champignons dans notre corps.
On est tous des champignons. Mais, j'aimerais parler avec toi d'un sujet qu'on a déjà initié ensemble puis qui est peut-être un peu tabou. C'est... la relation qu'ont les mycologues en général et les cercles des mycologues sur le côté justement médicinal et même comestible, c'est quoi? Pourquoi on sent une certaine...
beaucoup de réticence, hein?
Pardon?
Beaucoup de réticence.
Oui, exact. Ça vient d'où, ça?
Moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je l'ai vécu, je te dirais... je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années. Je donnais déjà depuis un certain temps des formations sur les champignons et je m'en vais à Montréal, une journée porte ouverte. C'était l'Assemblée générale annuelle du Cercle des mycologues de Montréal. Et j'arrive là, c'était au Jardin botanique, et je vois du monde qui était assis. Puis c'était super intéressant là, quand même. Puis là, je vois un paquet de champignons en exposition, les noms étaient là. Et là, j'étais quasiment en état de suffocation. Je dis, ben voyons, champignons là, je le mange. Ces gens-là, j'ai dit, pourquoi vous ne dites pas que c'est comestible? Je pense que derrière l'étiquette de comestibilité des champignons, ces gens-là ne veulent pas ou plus prendre de risques. À toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a mangé un champignon, qui a senti un inconfort ou qui a vomi ou je ne sais pas quoi, ben il y a mieux le déclarer non comestible. Parce que tu regarderas même dans le dernier livre, le grand livre des champignons du Québec et de l'Est du Canada, de McNeil, ben, tu vois, le mot chaga, la description du chaga, c'est marqué non comestible. Alors, on sait très bien que tout le monde mange du chaga. Moi, je cuisine mon pain, je mets de la poudre de chaga. Je bois du chaga comme tellement de monde. Alors, si c'était pas comestible, ben, je serais mort, puis il y en aurait tellement qui seraient morts. Alors, il y a cette crainte-là. Puis moi, je dirais que dans les cercles de mycologues actuellement, on donne toutes les caractéristiques, on met beaucoup d'énergie à décrire de façon très, très scientifique avec des termes qu'habituellement personne ne comprend, mais on hésite ou on ne dit pas si c'est comestible. Puis moi, je sais très bien, par mon club régional, c'est exactement ça qui se passe. On ne doit pas dire quand il y a des ateliers si c'est comestible ou pas. Si vous voulez le savoir, c'est vous qui prenez la décision d'aller voir dans les livres ou sur le site de Myco-Québec. Et c'est là vous qui prenez la décision. Nous, on ne prend pas la décision de vous dire parce que d'un coup qu'il y aurait, il y aurait un accident quelconque. Alors, on ne veut pas se responsabiliser. Autre détail, et ça, ça me chicote encore beaucoup plus, c'est que les fameux champignons comme ça, les champignons médicinaux, ces gens-là n'y croient pas, tout simplement. Et on demande tout le temps des preuves scientifiques. Et moi, c'est un peu ça qui me dérange. Parce que il y a d'autres façons de faire de la recherche puis d'arriver à la vérité que de faire de la recherche scientifique. Puis à ce titre-là, quand on parle de la fameuse émission à la télévision qu'on voit toutes les semaines le dimanche soir qui s'appelle Le Pharmacien, tout ce qui est vrai, c'est basé sur la science. Tout ce qui n'est pas basé sur la science, c'est pas vrai. Écoutez, y a des gens qui consomment des plantes depuis 500 ans, 1000 ans et au-delà de ça. Il n'y a jamais eu d'études scientifiques qui ont été faites sur l'alicament qui est consommé. Ces gens-là ont amélioré leur état de santé en consommant, du tuya ou même des feuilles de thé du Labrador. Puis il y a quelques personnes au Québec qui font de la recherche dans ce domaine-là. Ça s'appelle de la recherche ethnologique. Donc, c'est basé sur les commentaires des personnes. Mais des centaines de personnes qui en consomment depuis des centaines d'années. Pour moi, c'est aussi vrai. C'est aussi bon. Puis quand on me parle de la recherche scientifique qui est la seule façon d'arriver à des connaissances, pour moi, ce n'est pas vrai.
Il y a plusieurs choses là-dessus. Tu sais, premièrement, dans le monde de la science, puis de la science médicale, il y a quelque chose qui fait que les dispositifs expérimentaux là, de groupe avec placebo, etc., oui, ça coûte extrêmement cher. Okay? Donc, il faut s'assurer qu'on va avoir des profits à la fin de cette recherche-là. C'est pour ça que les recherches médicales sur les principes actifs se font principalement sur des molécules que l'on peut avoir une propriété intellectuelle dessus. C'est pour ça que dans la nature, il y a plein de choses. La plupart de nos médicaments, on le voit avec le COVID en ce moment, là, l'hydroxychloroquine,
oui,
et les autres, ça vient tout de la quinine. Il y en a une qui vient des crocus. Oui. C'est tous des éléments qu'on retrouve dans la nature. Là. La pharmacopée moderne, elle sort pas de nulle part. Là. Elle sort pas de la planète Mars. Là. Elle sort des molécules déjà existantes sur la planète.
Oui. C'est
que la recherche scientifique doit s'assurer de ses profits comme ça. Puis je dois dire que la recherche scientifique ne se limite pas seulement à l'Occident. Puis on se rend compte que les Chinois, il y a plein de recherches qui suivent des dispositifs scientifiques sur la médecine traditionnelle chinoise. Tu sais? Puis ils le font avec leur flore et leur fonge parce qu'ils savent, ils en connaissent les bienfaits. Tu sais? C'est avec ça, c'était ma petite aparté sur là-dessus.
Oui, mais c'est ça. Mais je trouve que personnellement, moi, ça vient en quelque sorte me vexer personnellement parce que quand on dit que dans certains champignons ou dans certaines plantes, que c'est comme de la poudre à perlimpinpin, allons voir, c'est... Il y a autre chose à... En tout cas, moi, je trouve que ça manque d'ouverture d'esprit. Très honnêtement, je suis d'accord avec la recherche scientifique. On fait des choses. Quand on met des médicaments dans le corps d'un enfant ou d'un adulte ou d'une personne âgée, on connaît les conséquences, mais on va dire aussi, dans 75% des cas, très souvent, ça marche, mais il y a 25% des cas où ça ne marche pas. Puis on sait très bien qu'un médicament, c'est un produit qui est toxique. Parce qu'on ne peut pas en prendre jusqu'à, en tout cas, en quantité infinie. Ça fait qu'il faut... je pense que ça prend de l'ouverture d'esprit d'un bord puis de l'autre. Mais c'est ça. Moi, je me sens, encore une fois, vexé parce que par ce genre de propos-là, je le vis très souvent, surtout par des gens, soit en médecine traditionnelle, mais je te dirais qu'il y a de l'ouverture. Puis l'été passé, je tenais un atelier champignons ici en région, à l'Association des médecins et omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec. Écoute, là, c'est pas rien. Ça a été incroyablement intéressant, même s'il y avait très peu de champignons. Et là, ça m'a permis, étant donné qu'il y avait peu de champignons, de faire aussi des liens, parce qu'on était sur le terrain, des liens avec Livre du Canada. Puis là, ben, on a parlé du Taxol. Ben là, ben oui, on utilise le Taxol pour traiter les cancers, soit d'ovaire ou des cancers du sein. Donc là, de plus en plus, il y a de l'ouverture. Puis ça m'arrive tout le temps d'avoir dans les ateliers des pharmaciens qui viennent, puis qui me remercient de les avoir informés. Puis que, en tout cas, ça va au-delà. On est capable, nous, quand on fait des présentations, de parler des vrais noms, des vraies molécules. Et on est capable de dire si ça marche ou si ça marche pas, dans quelles conditions. Ça fait que ces gens-là sont, en tout cas, il y en a peu, mais il y en a. Fait que moi, je trouve qu'il y a de l'espoir de ce côté-là.
Mm-hmm. Puis c'est aussi dommage parce que, pour revenir au début de notre entrevue, où on parlait le lien entre éducation et comestibilité, comment la meilleure façon d'introduire les gens à leur écologie locale, c'est de leur mettre dans la bouche. Tu sais, il n'y a pas de meilleure façon. Puis je pense que on met une barrière à l'entrée à la connaissance mycologique, puis tout ce que ça peut amener comme connaissance globale de son territoire en créant cette distance avec le comestible.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et je te dirais que moi, depuis que je donne des ateliers sur les champignons, surtout, parce que c'est facile, mais sur les plantes, c'est en tout cas, je ne l'ai pas fait souvent, mais je termine tout le temps mes ateliers champignons par une dégustation. Et tous les champignons comestibles qu'on a récoltés, on les goûte. Et les gens partent donc ils ont vu champignons sur le terrain, ils l'ont vu là. Ils ont appris comment le discriminer entre telle espèce et telle autre. Puis en plus de ça, ils ont goûté. Ces gens-là sont, en tout cas, à mon avis, très reconnaissants. Puis je me croise les doigts. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème de santé après. Parce que ça pourrait arriver, ça. Mais les clubs de mycologues, quand ils font des ateliers champignons, ils ne font pas de dégustation après l'activité champignon. Je trouve ça bien dommage, mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ces gens-là ne veulent pas se responsabiliser. Ils vont laisser aux gens qui sont à l'activité, ils vont leur dire, bien, vous pouvez partir avec tel champignon, le pied de mouton ou peu importe. Puis vous allez vous-même aller faire votre recherche. C'est vous autres qui allez décider chez vous de le faire cuire. Moi, j'aime mieux faire ça sur le terrain, en parlant évidemment de tous les problèmes qui peuvent arriver. Il y a 2 ans, j'ai eu des personnes qui étaient allergiques ou en tout cas, peu importe, intolérantes aux chanterelles. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Puis c'était génétique parce que c'était une grand-mère avec sa petite-fille. Puis les deux s'étaient ramassés à l'urgence, à l'hôpital, à l'urgence ici, à un moment donné. Donc, ça peut arriver. Puis ça, on le dit dans les formations. Fait que moi, je pense, en tout cas, moi, je suis plus gagnant d'agir comme ça maintenant que de donner la responsabilité aux gens de partir avec des champignons puis de les manger chez eux. Puis que s'ils sont malades, ben là, ils sont mal pris. J'aime mieux être là pour voir et d'expliquer. Mm-hmm. Ah, de toute façon, on prend toujours un risque dans la vie, hein?
Ouais, un risque calculé si possible. Puis la meilleure façon de calculer son risque, c'est d'augmenter son exposition puis sa connaissance aux champignons en général. On dit pas de s'initier directement et manger une cinquantaine de champignons. Là, c'est quelque chose qui se fait graduellement, puis c'est une confiance qui se construit. Oui,
c'est pour ça que l'éducation, c'est le point de départ. Mm-hmm.
Donc, Roger, est-ce que tu as un projet d'écriture en ce moment? C'est quoi le prochain livre?
Là, je suis en train de rééditer mon livre sur les champignons comestibles de la forêt boréale. Écoute, ce livre-là, qui est sorti en 2013, on en avait fait faire 2000 copies, je pense, ou 2005. Au bout d'un an, il a été reconnu comme livre coup de cœur dans les librairies Renaud-Bray. On était très heureux. Puis quand je dis nous, là, toutes les fois que, en tout cas, moi, je gère un livre, il y a toujours une équipe derrière moi ou avec moi, ou en tout cas, là, on est vraiment en symbiose. c'est ça. Et je l'ai fait réimprimer. Et là, après la troisième impression, là, on était dû pour lui donner une nouvelle saveur. Et c'est ça. Là, il sort au mois de mai. La réédition, puis mon livre « Plantes comestibles et médicinales », écoute, je cherche quelqu'un qui a des très bonnes connaissances en herboristerie pour le rééditer, parce que là, je suis rendu à peu près à la cinquième impression, puis c'est un livre qui est sorti en 2016, c'est ça, et là, lui aussi, je devrais le retravailler éventuellement. Puis, j'ai des projets plein la tête et des contrats en masse.
Puis, c'est où que les gens peuvent suivre, acheter tes livres, te contacter?
Mes livres sont vendus dans toutes les librairies parce que je suis distribué par l'Agence du livre de Sherbrooke. Et quand un livre n'est pas en librairie et qu'on veut l'avoir, on le demande et je répète à qui veut bien l'entendre partout que le libraire